français qui s'hébergent Gondard. Ali Ben Papa, quand il entrait dans un grand café, les parisiennes venaient lui demander à Roi Ménard. Ali Ben Papa, c'est la terreur des vieux maris, tout le monde en a peur, ils dégomment sans douleur les tombeurs à mon cœur. Toujours soigné, toujours bien lavé, une fleur dans ses cheveux frisés, c'est un vrai pacha. Ali Ben Papa, Hanna, la Hanna, la banana, Hanna, Hanna, Ali Ben Papa, et Ramacha, la Moutière, Ramacha, Bono, Ali Ben Machana, Hina.
Dans les friches, dans la mémoire qui s'évanouit du Paris colonial, et là plus spécialement du Paris arabe, et bien nous voilà en bordure de Paris, dans le bois de Vincennes, là où fut installée une exposition coloniale en 1907, et là, pavillon du Congo, pavillon tunisien, pavillon de la Guyane, pavillon de l'Indochine, etc. Temple du souvenir indochinois, tout ça est là, mais... Premier à l'oubli, on ne sait pas très bien quoi faire. Évidemment, pas question de démolir, mais pas question de mettre en valeur, pas question d'honorer tout à fait, et pas question d'oublier complètement, encombrant comme cette mémoire, tantôt comme les relations que nous avons depuis très longtemps avec le monde arabe, tantôt c'est le monde oriental avec les Almées qui nous font rêver, c'est Baudelaire, c'est Flaubert, c'est le voyage en Orient, et puis tantôt c'est le Bougnoul, c'est le Sidi, c'est la Beurette, mais au sens méprisant du terme, c'est cette ambivalence avec évidemment, comme le dit Pascal Blanchard, aussi pour un certain nombre de colonisés, Paris fut bel et bien la ville lumière, la ville qui incarnait capitale du pays des droits de l'homme, etc. Il y a eu cette ambivalence, cette double image et cette histoire double dans laquelle nous nous promenons.
Alors là, on est devant quel bâtiment ?
Alors,
parce que là, c'est impressionnant. Il y a une grillage autour, périmètre de sécurité.
Qui n'existait fermé. Pas d'ailleurs, d'une manière étonnante, il y a encore un ou deux ans. C'est-à-dire comme le bâtiment est en très mauvais état, c'est l'ancien pavillon marocain à l'époque. Où on voit le toit a disparu, il reste...
Quelques bâches, mais on reconnaît les espèces de créneaux.
Des crénelines, tout à fait, au-dessus. On reconnaît aussi quelques carrelages que l'on voit autour, voilà. qui symbolisaient le pavillon et son côté dit oriental. Alors, bien entendu, nous n'avons pas affaire à des bâtiments dont l'exactitude architecturale était... L'idée, c'était de faire sens, comment dire, de donner le sentiment d'être dans un petit coin d'Orient. Alors là, on a du mal à le voir parce que dessus ont été rajoutés des bâtiments plus modernes, mais ce bâtiment était relativement impressionnant et relativement esthétique à l'époque, avec son toit et justement ces canonines que l'on peut voir autour. Et là, donc, on venait voir le petit boutiquier marocain, on venait voir l'artisan, on découvrait les produits du Maroc, et on avait l'impression d'être dans un petit souk reconstitué.
C'était vraiment fait comme ça.
Ah, c'était exactement fait comme ça. En gros, bah oui, on était dans la Casbah. Donc vous voyez, ce petit voyage que le visiteur faisait, il passait de cette mosquée dite tunisienne à ce petit pavillon avec ses souks marocains, il revenait par le pavillon de la Réunion, il allait voir le campement des Touaregs, il regardait les éléphants au point d'eau, on ira tout à l'heure dessus, il était avant rentré sous la grande porte indochinoise, qui existe toujours, qui est en bois de l'autre côté, il allait voir le temple indochinois, il revenait après pour aller peut-être aller voir les Kanaks qui étaient en spectacle. Et puis,
qui étaient en pagne aussi.
Exactement, bien sûr. Ça passe tellement mieux dans le ludique, le message propagandiste de l'époque, que de vouloir le faire. Parce que les gens pensent très souvent que la propagande coloniale, à l'époque, a fonctionné telle une mécanique lourde qui essayait de bourrer les crânes. Mais on allait pique-niquer quand on venait ici, le dimanche. Comme on allait aux zoos.
Et on en prenait plein les yeux.
Et on en prenait plein les yeux. Et donc de retrouver dans le même jardin, et si on imagine l'entrechoquement ici, entre ce monde où a été construit un bout d'Orient, un bout du Paris arabe complètement fantasmé, de retrouver à côté des monuments aux morts, vous avez une sorte de résumé en quelques images et quelques moulures et quelques sculptures d'un passé un peu oublié. Et je pense que cet endroit, dans ce silence, on n'entend plus que les petits oiseaux, est assez intéressant pour imaginer comment on résonne dans notre mémoire, la mémoire coloniale française.
Les grands chefs blancs se penchèrent au chevet des misérables et s'informèrent de leurs besoins. L'esclave de jadis, le paria de toujours, connut enfin la dignité humaine. Il eut un toit, la sécurité, le repos. Le malade qui grelottait sur la terre nue connut la caresse des draps blancs.
C'est marrant parce que là, on marche au milieu, il y a une bambouseraie, mais c'est à moitié abandonné. Il y,